je vous propose. Et ceux qui veulent y aller, je comprends, vous avez faim, vous avez d'autres choses à faire, je comprends. Pas de problème. Il y a plein de gens qui restent. Ah oui, je voulais répondre, j'en profite du coup, je n'ai pas parlé. Je voulais répondre à la question de Muriel qui demandait, est-ce qu'on peut le débrancher comme ça, on s'en sert comme d'un micro ? Je voulais répondre à la question de Muriel Laroui qui posait la question, le RG2A prend-il en compte les applications mobiles ? On n'en a pas l'impression. Donc d'un point de vue légal, effectivement, oui, il y a une obligation légale de rendre les sites web et les applications et tout ce qui est numérique accessible, y compris les télévisions, etc. D'un point de vue pratique, le référentiel technique du RG2A, c'est juste une méthode d'application des règles internationales. Et aujourd'hui, les WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines, tout le monde se range en attendant, les WCAG ne prennent pas spécifiquement en compte les applications mobiles, donc tout ce qui est web mobile, oui, enfin, peu importe la taille, par contre ça ne prend pas spécialement en compte. Et donc il y a une version actuellement en cours, on est à la version 2 de WCAG, il y a une version 2.1 qui est en cours pour prendre en compte les applications mobiles, qui a été anticipé dans une ressource complémentaire au référentiel technique du RG2A, qui prend en compte déjà, qui est une espèce d'extension pour prendre en compte le mobile, mais qui n'est pas formalisé, enfin qui n'est pas rendu obligatoire, puisque l'obligation légale est au niveau européen, puisqu'il y a la directive, il y a une directive européenne qui est passée le 21 octobre de cette année, donc c'est tout frais, le 26 octobre, 21, 26, je ne sais plus. Autour de par là quoi, et qui oblige à l'accessibilité en référence aux règles internationales niveau AA. Donc en France on est déjà plutôt bon, puisque d'un point de vue juridique, par contre l'application pas du tout, hein, mais d'un point de vue juridique en tout cas les textes sont bons. Donc comme on a une obligation de respecter WCAG, si WCAG ne va pas plus loin dans la prise en compte du mobile, il peut pas y avoir de règles techniques imposées. En revanche, il y a déjà une ressource qui anticipe un petit peu la version 2.1 de WCAG. Pour répondre, j'espère, à la question. Et peut-être donner la parole à Christiane, parce qu'il me... Non, il va sécher. Non, mais parce qu'il me semble que dans OSAI, il y a un projet sur le mobile d'Orange, ou peut-être à Stéphane.
Oui.
Je le connais pas.
Donc oui, donc je... Bon, pour ceux qui seront à Toulouse, au Capitole du Libre, je ferai un exposé un petit peu plus large de tous les outils et toutes les ressources. Nous mettons à disposition samedi à 17h30 de mémoire. D'ici là, donc, MDAN, démonstrateur d'accessibilité numérique mobile, est une application téléchargeable et installable sur iPhone et sur Android. Malheureusement, je n'ai pas l'URL de tête là, mais je peux vous la donner pour ceux qui la veulent. Ou pour
MDAN, peut-être en tapant alors, M-D-A-N.
Alors, M en minuscule et DAN en majuscule, D-A-N. Donc cet outil est une application, vous lancez TalkBack sur votre iPhone, TalkBack ? Comment il s'appelle ? VoiceOver, voilà. Et TalkBack sur Android. Vous allez pouvoir lire entièrement cette application comme une personne mal ou non-voyante va la lire, comme une personne qui va avoir des difficultés à voir ce qui se passe sur son écran. Et donc on a des éléments très simples de démonstration. Qu'est-ce qui se passe si je fais une image accessible ou pas accessible? Exactement comme on a des règles pour le faire sur le web, on a des règles maintenant qui sont bien documentées sur Android et sur iPhone pour le faire. Donc cette application donne des cas d'usage et dit voilà comment il faut faire, et puis fournit systématiquement un lien vers la ressource chez Android ou chez Apple pour avoir des exemples de code pertinents. Cette application, par ailleurs, étant développée en open, est aussi sur GitHub, et donc vous pouvez directement aller chercher les exemples tels qu'ils sont écrits dans l'application sur GitHub. Donc là aussi, j'ai pas l'URL en tête, github.com/ de mémoire orange open source, quelque chose comme ça, ou orange-open source. Voilà, il y en a un qui suit avec un t-shirt orange en plus. C'est vraiment, t'as bien fait les choses.
Je suis chez Free.
Voilà.
Mais du coup, tu peux peut-être mettre l'URL.
Merci. Voilà, d'autres questions.
Est-ce que vous pouvez rappeler l'application sur Android ?
L'application s'appelle MDAN. M pour mobile et DAN pour démonstrateur d'accessibilité numérique. M en minuscule, DAN, D-A-N en majuscule.
Il y a une question ? Peux-tu donner ton nom pour la transcription ?
Bonjour, je m'appelle Yakov. Je suis en train de monter une agence web qui s'appelle Bonobo Digital. J'avais une question très bête en fait. Hein. C'est sur les pédales pour la transcription, ça m'intéresse beaucoup en fait. Je ne sais pas si c'est possible de se les procurer. Ouais, je ne les connaissais pas.
J'étais sûre, question piège. Bon, Magali.
Alors, il existe énormément de modèles de pédales, pas forcément pour la transcription, mais qui peuvent quasiment être tout adaptés à ça. Il suffit juste d'installer un petit script. Nous, on a nos développeurs qui a fait un petit script qu'il a appelé, alors, Pédalbir ou Pédalbert, je ne sais pas comment on dit ours en anglais, je confonds. Pédalbert, voilà, Pédalbert, parce que bah, il avait fait un petit ours sur une pédale, qui s'excitait sur une pédale. Donc, bah, c'est un petit script libre que vous pouvez récupérer sur le wiki de l'April au niveau du groupe transcription.
On essaiera de mettre le lien avec photo, le script, tout ça, où on peut trouver tout ça quelque part. Ouais.
Pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux expliquer le fonctionnement de la pédale?
Bah, il l'a expliqué.
Alors, est-ce que vous voyez le clic des souris, quand vous avez une souris à la main, clic droit, clic gauche? Bon, bah, c'est la même chose, mais avec le pied. Et il n'y a qu'un seul clic.
D'accord. Grosso modo, c'est pause, lecture, pause, lecture, pause, lecture.
C'est ça.
Ouais. Comment t'appelles-tu?
David. Et j'ai une question par rapport à la transcription. En fait, où est-ce qu'on trouve les transcrits, en fait, les textes? Enfin, c'était pas très clair de la présentation. Où est-ce qu'on peut lire, hein, donc, les transcriptions?
Alors, toutes les transcriptions du groupe Transcription de l'April sont sur le site de l'April. Donc, april.org, sur la première page, il y a un onglet qui s'appelle les vidéos. Et dans cet onglet-là, toutes les vidéos qui sont publiées sur le site sont forcément transcrites.
Donc, april.org.
Bonjour, je m'appelle Maïté. J'ai une question pour Madame Larouy. Votre expérimentation sur Valenciennes, elle s'étend sur combien de... Enfin, quelle durée? Et est-ce que vous pensez qu'à terme, ce sera applicable partout en France, je veux dire hexagonale et outre-mer?
Peut-être tu peux redonner le contexte pour...
Alors, pour le moment, l'expérimentation valencienne, le lancement réel, ça sera dans 10 jours. Donc, c'est même pas encore... En fait, ils ont été retenus au mois d'octobre dans le PIA, dans le projet d'investissement d'avenir, ils ont eu la réponse fin octobre. Donc, nous, on a été en contact quasiment dans la semaine qui a suivi et on leur a dit ça pourrait être intéressant. Donc là, ils sont en train de constituer leur équipe sur les aspects également numériques, puisqu'ils n'avaient pas de base de données. Ils étaient beaucoup plus sur des équipes capables de travailler sur les mobilités des gens, sur... La question base de données n'était pas encore très, très creusée au moment. Voilà, ils en étaient vraiment à avoir rédigé un projet. Donc c'est le temps d'un PIA, et un PIA d'un projet, c'est 3 ans. Voilà, c'est 3 ans. Donc voilà, on fait la réunion de lancement dans 10 jours. Donc on en saura un peu plus dans 10 jours. Et la responsable de Primo, Philippe Pudlot, P-U-D-L-O, philippe.pudlot. Je vous redonnerai l'info, sera là lundi au colloque à la Défense, si vous voulez le rencontrer ou le voir. Il présentera en partie le projet lundi après-midi. Alors, le PIA a été déposé par l'agglomération de Valenciennes et le porteur de l'application, c'est Primo. C'est un pôle de recherche handicap et mobilité à Valenciennes.
Alors, depuis tout à l'heure.
Une question pour Claire. Je veux savoir le nombre de personnes touchées par le handicap mental.
Ou intellectuel.
Oui. Non, on va dissocier les personnes qui ont une reconnaissance handicap des personnes, j'entends ma voisine dire tout le monde, qui peuvent avoir à un moment ou à un autre une limitation d'ordre cognitif. Donc au niveau du handicap, On est autour de chiffres, autour de 800 000 personnes reconnues comme telles handicapées intellectuelles. Après, en termes de besoins, ce n'est pas exactement la même chose. On va avoir tout un tas d'autres personnes qui ont des problèmes cognitifs momentanés ou durables. Donc là, après, on va de des personnes âgées en passant par les traumatisés crâniens, des personnes qui sont sous médicaments parce que, voilà, parce qu'elles ont une maladie qui limitent leur capacité cognitive, les personnes étrangères. Donc après, d'un seul coup, ce que je disais tout à l'heure sur l'importance d'accéder au sens et à la compréhension se démultiplie beaucoup plus qu'un public cible handicapé, reconnu, estampillé, handicapé intellectuel.
J'en profite pour dire que demain, à l'Access Camp, il y aura quelqu'un de la DINSI, quelqu'un d'autre qui s'appelle Maringou et qui va nous parler aussi d'idées. C'est pas encore au stade de projet, mais pour faciliter l'accès aux formulaires administratifs en travaillant justement à partir du facile à lire et à comprendre. Donc on voit toujours la question de la conception universelle, ce qui est nécessaire pour les uns, finalement on facilite pour beaucoup beaucoup plus de monde.
Une toute petite statistique assez intéressante. On estime à la louche que vous perdez 20% de vos capacités cognitives dès qu'il y a du bruit autour de vous. Donc ça veut dire qu'au bureau, dans un open space, vous avez déjà un handicap cognitif important. Donc si je vous fournis des interfaces un peu complexes à comprendre, vous avez déjà perdu 20% du simple fait du bruit autour de vous. Si vous êtes dans une situation de stress, vous perdez encore, etc. etc. Donc la plupart des gens, à un moment ou à un autre, sont impactés par du handicap cognitif temporaire.
J'ai l'occasion, Muriel Laroui, donc j'ai l'occasion régulièrement d'intervenir à l'université dans des Master 2 transports et je leur dis bien que heureusement qu'ils ont un Master 2 transport pour être en capacité de prendre les transports en commun. Ça nécessite des capacités cognitives énormes de se mouvoir en ville. Voilà, donc le handicap mental, s'il y a autant de gens en voiture, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de gens handicapés pour... ils ne sont pas en mesure de comprendre un réseau de bus. C'est pas compréhensible un réseau de bus. Si je vous demande avec votre ticket T+, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire avec un ticket T+, en Ile-de-France, vous n'êtes pas en mesure de me répondre. Donc vous allez être handicapé, vous risquez d'être en situation de fraude. Lorsque vous vous retrouvez face à une interconnexion un peu complexe, moi je vous mets au défi d'arriver à avoir votre correspondance à Gare du Nord entre deux lignes de train, parce que bah, si ils sont pas au même niveau de la gare, il faut avoir compris que bah, c'est la zone bleue, jaune. Voilà, il faut des vraies capacités cognitives pour prendre les transports. C'est pas pour rien qu'il y a des vrais opérateurs qui sont là pour travailler à l'apprentissage de l'usage des transports en commun. Il y a besoin de capacités cognitives. Donc, d'où l'intérêt de simplifier au maximum les informations qu'on va donner. L'autre information, là, actuellement, on parle pour un tiers de la population française, parce que l'accessibilité au numérique, les dernières études montrent qu'il y a un tiers de la population qui utilise la mobilité 3.0, donc les applications, son téléphone et le numérique sur le téléphone, un tiers de la population qui l'utilise uniquement à la maison derrière son ordinateur portable, et donc là, vous êtes quand même sur une autre frange de la population, et vous avez un tiers de la population qui n'utilise jamais le numérique. Et sur ce tiers de population, c'est des gens qui n'ont pas d'adresse Internet, qui n'ont pas de connexion Internet chez eux, qui n'ont pas de connexion sur un téléphone. Donc voilà, on a encore une grande frange de la population qui n'a pas l'accès au numérique du tout.
Et c'est important de le rappeler parce que ça peut être vécu comme une violence quand il y a certains services qui disparaissent dans le monde physique et qu'on n'a plus qu'au niveau numérique. On a vu ça pour le paiement des impôts ou du coup dans les maisons de retraite, etc. Ils ont été obligés de mettre des gens spécialement sur place. Si en plus c'est compliqué et pas accessible, vous bloquez l'accès à des citoyens qui ne sont plus considérés comme des citoyens comme les autres. D'où l'importance aussi sociétale.
C'est une vraie discrimination. C'est une véritable discrimination. On a beaucoup parlé de la fracture numérique en termes d'équipement, de taux d'équipement, d'accès financier à un équipement. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la fracture numérique en termes de d'usage, de compétences. Et au-delà de ça, bah, si on ne peut pas un, s'équiper ou avoir accès à un moment ou un autre à un équipement, deux, réussir à faire fonctionner le bazar, trois, comprendre ce qu'on nous dit, et quatre, remplir ses devoirs de citoyen comme payer ses impôts ou remplir un formulaire CAF ou X ou Y, eh bien là, on tombe directement dans le champ de la discrimination. Et ça, pour les associations, c'est un vrai enjeu. Et évidemment, au-delà de tout ça, il y a l'enjeu de l'accessibilité numérique et des contenus.
Donc, question. Je vais mentionner une autre chose que nous n'avons pas trop mentionné pendant ces discussions-là, mais je pense que ça mérite d'être aussi porté en visibilité. C'est le fait que l'accessibilité en lui-même pourrait être vue comme un driver vers l'innovation, dans le sens que on a les services maintenant qui commencent à arriver, par exemple les services de Google, Apple, etc., qui les comprennent, analysent les photos pour ajouter les tags sur le fait qu'il y a une photo qui porte un chien ou un chat, etc., etc. Donc, toutes ces technologies qui sont en train d'être développées en sens intelligence artificielle pourraient être aussi vues comme les aides et les innovations qui vont faciliter la vie pour nos accès en sens handicap si on cherche un peu plus loin que l'évident. Donc, le fait que ouais, j'ai une photo d'un chien, ok, ben on peut aller plus loin. Combiner cette technologie avec des augmented reality pour que quand je balade mon téléphone, je pourrais commencer de dire ben, il y a un proto, il y a un X ou il y a un Y. Donc il y a plein de choses qui pourraient être faites en sens innovation, qui n'est pas une innovation, on va dire, directement ciblée à l'accessibilité, mais en réalité va vraiment assister sur la notion d'accessibilité. On comprend aussi le fait qu'on est en train de transformer la façon qu'on lit vers un mode électronique, les livres électroniques, avec les facilités d'augmenter la police. Également, Apple, récemment, ils ont lancé un service de télévision pour les enfants, j'ai vu. Mais la télévision pour les enfants, c'est qu'ils ont quelques livres qui sont affichés à l'écran et quand il y a quelqu'un qui parle, il y a les mots qui sont mis en brillance pour faciliter l'apprentissage de lecture, etc. pour les enfants. Pourquoi pas aller plus loin, justement, facile à aller et comprendre, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de choses que nous, on fait au niveau innovation qui ne sont pas directement ciblées, mais éventuellement, en fait, vraiment pourrait faciliter cette notion d'accessibilité. Donc là, il y a un enjeu, je trouve. Je vais peut-être faire tout et relancer un peu.